Paroles en musique. Un parcours historique et théologique des grands hymnes chrétiens. Sur les ondes de CFOI-FM, la radio qui croit, c'est l'heure de l'émission Paroles en musique. Ici Raymond Perron qui vous accueille, en compagnie de Mac Wickfield. Bonjour Mac.
Bonjour Raymond.
Et bonjour à vous tous, chers auditeurs, chers amis. Merci encore de cette fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire du samedi à 7h-ci vers les 11h et en rediffusion à 17h30. Alors aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un monsieur qui est bien connu, hein, bien, n'est-ce pas, Mac, il est bien connu.
Oui.
Et aussi, bon, on connaît certains de ses cantiques, mais celui-là, peut-être que on n'est pas au courant. On n'est pas au fait de cette réalité que c'est lui qui l'a rédigé, qui l'a composé, et c'est un très 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 beau chant qui nous parle de la nature qui devrait être en adoration devant le Créateur, n'est-ce pas? Alors qu'en est-il, Mac, donc?
C'est un chant qui est quand même, qui j'ai dit la dernière fois, je crois que nos chants datent, ils sont pas d'aujourd'hui. Ce cantique date peut-être le plus que tout ce qu'on a déjà écouté, date de 1225. Et c'est un chant qui s'appelle « All Creatures of Our God and King ». Et je vous propose une première écoute de ce chant musical, chanté par une chorale qui s'appelle « Altar of Praise ». Donc, « All Creatures of Our God and King ».
All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Alleluia, alleluia. The burning sun with golden beam, the silver moon with softer gleam. Oh, praise Him.
Voilà, Altar of Praise qui nous chantait All Creatures of Our God and King. Permettez-moi de vous donner une traduction. C'est un chant qui porte quand même 5 strophes et vous allez entendre pas mal de Alléluia, de Louez-le, etc. parce qu'il y a un refrain qui revient souvent. Vous toutes les créatures de Dieu notre roi. Je devrais juste dire que je ne suis pas sûr exactement dans quelle langue ce chant a été rédigé dans un premier temps, probablement en latin. Donc, la traduction que je vous fais, c'est une traduction d'une traduction. De toute façon, on essaie de trouver ce qu'il voulait dire. « Vous, toutes les créatures de Dieu, notre roi, élevez vos voix pour chanter avec nous. Alléluia, que Dieu soit loué. Toi, soleil brûlant aux rayons dorés, toi, lune d'argent d'une lueur plus douce. Oh, louez-le. Oui, louez-le. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi, vent impétueux qui est si fort, vous, les nuages qui naviguent à travers les cieux, oh, louez-le, alléluia. Toi, l'aube matinale, réjouis-toi dans la louange. Vous, les lumières du soir, trouvez une voie, oh, louez-le, alléluia. Chère terre nourricière qui, jour après jour, déverse des bénédictions sur notre chemin, oh, louez-le, alléluia. Les fleurs et fruits qui poussent en toi, qu'ils démontrent eux aussi sa gloire. Oh, louez-le, alléluia. Et vous, les hommes au cœur tendre, pardonnant aux autres, prenez aussi part, oh, chantez, alléluia. Vous qui, depuis longtemps, supportez la douleur et la tristesse, louez Dieu et déchargez sur lui de vos soucis. Louez-le, alléluia. Que toutes choses bénissent leur créateur, et qu'elle l'adore humblement, louez-le, alléluia. Louez, louez le Père, louez le Fils et louez l'Esprit, trois en un. Oh, louez-le, oui, louez-le, alléluia, alléluia. Et ça finit avec alléluia.
Ben, alléluia, en effet. Hein? Alors, alléluia, loué soit Yahweh, oui. Loué soit Yahweh. Et c'est un cantique tout à fait typique de François d'Assise. On a dit beaucoup de choses sur François d'Assise. Il y a même eu quelques éléments mythiques, hein, quelques histoires urbaines, dirait-on aujourd'hui. François d'Assise qui était tout de même en communion avec la nature. Et on devrait être en communion avec la nature. Parce que la nature, par définition, c'est la révélation naturelle. Hein, c'est la révélation de Dieu, la révélation générale. N'est-ce pas, Mac? Alors, poursuivez, je vous en prie.
Oui. Comme j'ai dit auparavant, ce chant a été écrit donc en 1222, il date, par un homme qui avait 43 ans, né sous le nom de Giovanni Bernardone.
Oh, quel accent italien là!
Un nom perdu à l'histoire en faveur d'une autre appellation, bien sûr, François d'Assise. Sa ville natale étant évidemment en Italie, militaire dans sa jeunesse et indulgent de vie, il est venu à connaître Christ et a subi une réformation assez dramatique à l'âge de 25 ans. Il s'est décidé à servir Dieu en imitant dans son quotidien la vie de service vécue par Jésus. Quoiqu'issu d'une famille bien nantie, François méprisait le fait de posséder les biens de ce monde. Il a renoncé à ses richesses héritées, il s'est privé de tout, sauf les nécessités les plus modestes, et il s'est dévoué totalement à voyager dans toute sa région comme représentant du Christ. L'ordre des frères franciscains, qu'il a fondé à l'âge de 28 ans, est devenu à travers les années un grand mouvement de jeunes hommes et quelques femmes aussi, qui ont adopté ses croyances et son style de vie ascétique. Comme on peut discerner dans le cantique, François était un grand amateur de la nature, comme vous disiez, où il voyait partout la main de Dieu. Il y a une œuvre d'art de cette époque peinte par Giotto, artiste italien, qui présente François en train de nourrir les oiseaux. On l'a tous vu, oui. Je pense, à un moment donné. Un des mains hommages rendus à cet homme remarquable est le suivant. Saint François vint prêcher. Souriant, il rencontra des gens seuls, nourrit les pauvres, libéra un oiseau piégé, amena un enfant à la maison. Quoiqu'il ne dise aucun mot, le village n'oublia pas son texte, l'amour de Dieu. Ce chant, « Vous, toutes les créatures de Dieu, notre roi », a été écrit en un an avant la mort de François. Quand il était très malade, il a perdu sa vision, il voyait une grande importance dans la musique et dans les chants à l'église. Et il a écrit une bonne soixantaine qu'on utilisait dans son monastère. François était ce qu'on appelle un mystique. Et il y a des histoires et sans doute des légendes qui ont grandi autour de sa personne. Il a connu, selon certaines, on pourrait appeler ça des visitations avec Dieu. Qu'elles soient historiques ou non, il est vrai que cet homme vivait proche de Dieu et que son influence se fait ressentir bien au-delà de son époque.
Amen. Le Seigneur a eu les siens tout au cours de l'histoire, même dans ce que nous appelons l'âge noir, le 1000 ans d'âge noir de l'Église. Hein, il y a eu, même au cœur de ces moments-là, très sombres, très moroses, des hommes qui ont marché très près de Dieu. Et le texte de ce cantique-là de saint François d'Assise s'harmonise parfaitement aux données bibliques. On n'a qu'à penser au psaume 103, les versets 20 à 22. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres. Dans tous les lieux de sa domination, mon âme bénit l'Éternel. » C'est exactement ce que François a mis sur papier, n'est-ce pas? A mis en musique ici. Les trois premières strophes, donc, nous parlent des éléments de la création, hein, de tout ce qui est contenu dans la création, toutes les créatures, tout ce qui a été créé par Dieu est invité à louer le Seigneur, et d'une certaine manière, ils louent le Seigneur par leur fidèle obéissance à accomplir ce pourquoi ils ont été créés, hein, les fleurs qui s'ouvrent, n'est-ce pas, les fruits qui fleurissent, le soleil qui se lève, et la création comme telle n'est pas rebelle à l'Éternel, hein. De toute la création de Dieu, seul l'homme à l'image de Dieu avait cette capacité finalement de s'opposer à Dieu, et seul lui traîne de la patte. Mais donc les trois premières strophes, les éléments de la création. La quatrième strophe lance une invitation aux hommes de tender heart, aux hommes au cœur tendre. Pourriez-vous nous la relire, Max, s'il vous plaît, la quatrième strophe?
Et vous, les hommes au cœur tendre, pardonnant aux autres, prenez aussi part au chanter. Alléluia. Vous qui depuis longtemps supportez la douleur et la tristesse, louez Dieu et déchargez sur lui de vos soucis. Louez-le. Oui, louez-le. Alléluia. Alléluia.
Et l'attendrissement du cœur, c'est certainement l'une des facettes du salut. Hein? Nous sommes des gens au cœur dur, on se pense bien tendre avant court, mais après le salut, on se rend compte que notre cœur était endurci et le Seigneur l'attendrit. Et lorsque le cœur est attendri, il devient plein de miséricorde pour les autres, parce qu'il se rend compte à quel point il a été lui-même bénéficiaire de la miséricorde divine. Il est capable aussi de cesser de regarder à lui-même, parce que par définition, la conversion, c'est se tourner vers Dieu, c'est se détourner de soi et se tourner vers Dieu, et aussi se tourner vers les autres. Donc, on devient un peu plus empathique, si vous posez l'expression, même sympathique, sumpatheo, hein, souffrir avec. Hein. On comprend davantage la souffrance de l'autre et on veut bien l'accompagner là-dedans. Alors, c'est ce dont nous parle cette quatrième strophe-là. Le psaume 33, versets 1 à 4, se lit comme suit. Juste, un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié, hein, par la grâce de Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange, sciez aux hommes droits. Parfois, on voit quelqu'un et on lui dit « Ah, oh, comme ta cravate ou comme ton costume te va bien. » Ben, la louange, ça va bien aux hommes droits. C'est ce que veut dire le mot « scier », n'est-ce pas? La louange scier aux hommes droits. « Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Le psaume 22, verset 4. Tu es le saint, tu sièges où? Au milieu des louanges d'Israël. L'Éternel siège, trône au milieu des louanges de son peuple. Et à la cinquième strophe, on revient à nouveau sur le fait que Dieu est digne de toute louange et de toute adoration. Hein. Dieu a tout créé pour sa gloire. Il faut bien prendre ça en considération que tout ce que Dieu fait, c'est d'abord pour sa gloire. Dieu a tout créé pour sa gloire, de sorte que tout ce qui existe a comme fonction première de glorifier Dieu. Alléluia. Et nous entrons ici dans le cœur du péché de l'homme. Ce qui encourt le jugement de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'homme s'attire la colère de Dieu? C'est qu'il ne donne pas gloire à Dieu. Comment Adam et Ève en sont-ils arrivés à se rebeller contre Dieu? Ben, en décidant pour eux-mêmes et en faisant fi de la parole de Dieu. Hein? Vous deviendrez comme des dieux, le mensonge satanique, n'est-ce pas? Ils voulaient prendre pour eux de la gloire, ne pas donner gloire à Dieu. Et c'est ce que l'humanité pécheresse fait depuis ce temps-là. C'est bien le motif de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 21, qui nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu littéralement dans le grec, ce qui est connu de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Mon mot favori de toute la Bible, anapologetos, ils sont donc sans apologétique, sans apologie, car, et voici le grand péché de l'être humain, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et ça, ça nous amène à nous poser une question, hein. Est-ce que ma vie glorifie le Seigneur? Mon agir, mon discours, ma manière de faire, mes projets, mes ambitions, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour ma propre gloire? Vous savez que c'est le but premier du salut en Christ Jésus. Bien sûr que nous tirons grandement profit du salut que Dieu opère à notre faveur. Mais l'intention première du salut, c'est la gloire de Dieu. L'apôtre Paul aux Éphésiens, dans la péricope là, qui s'étend au chapitre 1, versets 3 à 14, nous parle qu'il nous a sauvés pour sa gloire. Laissez-moi vous lire la portion, même si elle est un peu longue, je pense qu'il vaut la peine d'être lue. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus, c'est pas nous qui l'avons élu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés, ça veut dire destinés avant. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, non pas le caprice de la nôtre. Selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est pas une phrase pour emphysémateux, hein. En fait, c'est la plus longue phrase qu'on retrouve, à ce que je sache, dans le Nouveau Testament. « En lui, poursuit l'apôtre, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Voyez-vous, ça revient comme un refrain constant. Et on retrouve encore une fois une portion d'écriture que nous avons lue dans une émission précédente, Jean chapitre 15, versets 5 à 8, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Donc, mais comment est-ce qu'on apporte la louange et la gloire à notre Dieu en vivant de manière conforme à ses ordonnances? Vous savez, peut-être qu'il y a des gens parmi les hommes et les femmes qui nous écoutent présentement qui ne sont pas des croyants encore, ou qui ont peut-être suivi une religion, qui sont peut-être des gens gentils et qui se disent « je suis quand même, comparativement aux autres, quelqu'un de bien qui reçoit un bon témoignage d'autrui », mais s'ils ne sont pas nés de nouveau en Christ Jésus, Hein? Ils ne peuvent d'aucune façon plaire à Dieu, ils ne peuvent d'aucune façon vivre à la gloire de Dieu parce qu'ils se reposent encore sur leur propre performance en croyant que leur manière de vivre plaît à Dieu, alors que la seule justice qui puisse véritablement être acceptée par Dieu, c'est la justice que lui-même nous donne en Christ Jésus. Alors on en profite au passage pour lancer cette invitation. Si vous n'êtes pas encore venu au Christ Jésus, si vous n'avez pas encore goûté tous ces bienfaits qui nous sont décrits dans ce premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, ça peut se faire à l'instant même. Détournez-vous de vous-même, tournez-vous vers Dieu, venez à lui, donnez-lui votre vie, recevez gratuitement son salut. D'ailleurs, même la glorification qui viendra au retour du Christ ou lorsque nous entrerons dans la gloire avec lui après la vie présente, a pour but de manifester la gloire de Dieu. Dans la prière dite sacerdotale, le Seigneur Jésus, Jean chapitre 17, verset 24, dit ce qui suit. Et là, on lève le rideau sur un moment d'intimité. C'est très émouvant ici, c'est très touchant. Un moment d'intimité entre le Fils et son Père. Entre le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, et le Père. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. À vous, Mac.
Merci, Raymond. Dans l'Ancien Testament, on voit cette gloire de Dieu comme Dieu qui se rend visible, en quelque sorte. C'est ça, quand je conçois ce que ça veut dire, la gloire de Dieu. Glorifier Dieu, pour moi, ça veut dire rendre Dieu visible devant le monde.
Voilà, très bien dit.
Je vous présente maintenant une version a cappella du cantique « All Creatures of Our God and King ». Selon un style un peu autre que le traditionnel, un groupe du nom de Ellipse va nous le chanter.
Et comme vous le savez sans doute maintenant, comme nous en avons l'habitude, n'est-ce pas, c'est ce cantique qui vient mettre le point final à l'émission de ce matin, qui vous reviendra cependant en rediffusion à 17h30 cet après-midi. Merci encore, cher Mac, d'avoir été là. Merci à vous, chers auditeurs, aussi de votre écoute attentive. Puisse le Seigneur vous accorder une fin de semaine bénie, tout en grâce, et rappelons-nous que nous vivons coram Deo, nous vivons toujours sous le regard de Dieu qui veut de nous, ces créatures, que nous lui apportions gloire et honneur.
Praise Him. sing more.